dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, liberty and justice for all.
Bonsoir et bienvenue dans votre émission hebdomadaire L'Amérique et vous sur VOA Afrique. Et aujourd'hui, nous allons parler de la santé de l'économie américaine. Et selon les chiffres officiels publiés aujourd'hui, le taux de chômage est resté à 3,9% avec plus de 200 000 emplois créés le mois dernier, alors que les analystes misaient sur 187 000 nouveaux emplois. Et ceci malgré les critiques contre l'administration Trump sur ses conflits commerciaux avec la Chine et même les alliés des États-Unis comme le Canada et l'Union européenne. Malgré aussi les différentes polémiques autour de la présidence de Donald Trump, les marchés explosent. Le taux de croissance est à 4,2% pour le dernier trimestre. Alors qu'est-ce qui explique cette bonne santé de l'économie américaine? Ces chiffres profitent-ils à tous? C'est un peu de cela que nous allons parler avec nos invités, également avec des auditeurs qui peuvent nous appeler. Je le rappelle sur le 001-202-205-2633. Vous pouvez nous écouter sur nos différentes FM en Afrique, également sur voafrique.com. Alors, nos invités, Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État chargé de l'Afrique. Herman Cohen, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, nous avons également en ligne Leonard Wanchekon, professeur à Princeton, professeur d'économie. Monsieur Wanchekon, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Monsieur Cohen, qu'est-ce qui explique en fait ces bons chiffres de l'économie américaine pour vous?
Oui, il y a plusieurs raisons, mais à mon avis, c'est expliqué par la grande expansion des économies des grands pays comme la Chine et comme l'Inde. Ces deux pays sont en train d'acheter beaucoup de choses de partout dans le monde, surtout de l'Afrique. Et il y a beaucoup de gens qui gagnent de l'argent et ils achètent des produits américains. Les Américains vendent beaucoup de produits agricoles, par exemple. Beaucoup d'avions, de Boeing. Beaucoup de voitures dans le monde. Donc, ça a créé beaucoup d'emplois des États-Unis. Et en retour, les Américains qui ont beaucoup de travail ont fait expansion de leurs achats. Donc, c'est donnant partout dans le monde.
D'accord. Nous allons revenir sur les rapports entre les États-Unis et d'autres pays, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Leonard Wanchekon, le département de l'emploi nous dit que, en fait, finalement, ce boom a fait grimper les salaires. Ce n'était pas le cas depuis quelques mois. On connaissait des chiffres du chômage en baisse, mais pas forcément une hausse des emplois.
Oui, bon, je suis entièrement d'accord, mais il faut attendre pour voir si cela va être soutenu dans le temps. Parce qu'il reste quand même que le gain de l'expansion économique reste très, très inégalement partagé. Donc, la pauvreté et la précarité, donc, dans beaucoup de régions, notamment dans les régions du Midwest et dans les régions du Sud, et même en ville, dans beaucoup de villes. Donc, cette précarité existe encore. Donc, je pense que c'est trop tôt de commencer à parler donc du fait que l'expansion économique profite vraiment aux pauvres.
D'accord. L'économie, selon en tout cas l'administration Trump, est dopée par les réductions d'impôts et la politique de dérégulation initiée par cette administration. Les entreprises, donc, commencent à gagner beaucoup d'argent, n'est-ce pas, M. Cohen? Ce qui se répercute un peu sur le marché de l'emploi.
Ils ont réduit les impôts, mais malheureusement, la plupart des bénéfices sont allés vers les grandes sociétés et les actionnaires, n'est-ce pas? Au lieu de partager entre les actionnaires et les ouvriers, et les employés, La plupart de l'argent est allé chez les actionnaires, surtout les gens avec des revenus plus élevés. Donc, comme le professeur a dit, les gens au bas de l'échelle, qui sont substantiels, n'ont pas encore vu des grandes expansions de leurs revenus.
Alors, Leonard Wanchekon, cette administration explique un peu, disons, ces bons chiffres par la dérégulation, disons, du secteur financier. Et certains rappellent quand même ce qui s'est passé en 2007-2008, cette dérégulation qui était, selon certains analystes, à l'origine de la crise financière que ce pays a connue. C'est un peu un débat idéologique entre démocrates et républicains. Comment est-ce que vous l'interprétez?
C'est ça. Donc, en fait, le problème de l'analyse économique, ici, c'est très idéologique. Lorsque ça marche, c'est que c'est grâce à la dérégulation, au libre-échange, à tout le reste. Lorsque ça ne marche pas, c'est quel que soit le niveau de dérégulation qu'on a au départ, c'est toujours utilisé comme raison pour expliquer, disons, le manque de croissance économique. Donc, ce qui est clair, c'est que cette dérégulation sauvage, si vous voulez, notamment au niveau du secteur bancaire, a conduit à la crise. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a des gens qui parlent, par exemple, de la régulation, de Facebook, de Apple, de... Donc, finalement, la régulation ne sait pas ce que ça veut dire. En fait, lorsque ça vous avantage, vous dites que c'est bon. Lorsqu'il y a un problème, vous blâmez ça, cela, etc. Donc, ce qui est clair, c'est que les raisons profondes donc, de la croissance actuelle doivent être vues au-delà de ce que a fait l'administration Trump. Parce que ce qui est clair, c'est qu'il y avait des politiques qui avaient été mises en place de recovery après la crise, qui progressivement ont redonné confiance aux entreprises, ont mis en place donc les infrastructures qu'il faut donc pour qu'on ait ce qui se passe aujourd'hui. C'est difficile pour moi de croire que depuis un an et demi ou depuis deux ans que l'administration Trump est là, que bon, tout ce qu'ils ont fait ont de façon miraculeuse donné ces résultats spectaculaires qu'on a aujourd'hui. Donc je pense que...
D'accord.
Il faut aller bien au-delà, quoi, donc, de l'administration Trump et de sa politique.
Leonard Wanchekon, je crois que vous m'avez donné une belle transition pour prendre notre premier auditeur qui, sur notre page Facebook, pense que Obama avait déjà boosté l'économie. Nous avons Alphonse Mwaki depuis Kinshasa. Alphonse, bonsoir.
Bonsoir.
Abdourahman, oui, bonsoir. On vous écoute.
Moi, je pense que vous me confondez avec John Lindon, c'était Abdourahman.
John prépare son journal à la télé.
Ok, bon. Vous savez, moi, je pense que déjà, Trump avait hérité d'une économie déjà requinquée, vitalisée par Barack Obama. Depuis Barack Obama, les taux de chômage étaient en dessous de 4%. Hein. C'était déjà 3%. Je pense que lui, il est venu, il a trouvé ça, puis il a continué avec cette forte économie. Encore autre chose, je pense qu'on voulait déjà expliquer que le taux de pollution a été affaibli par Donald Trump des entreprises. Les entreprises payent moins d'impôts et cela permet à elles, à ces entreprises, à pouvoir créer des emplois. Les emplois sont nombreux parce que le taux de pollution est trop faible. Et puis, à part ça, sûrement, je crois que les entreprises délocalisées en Chine et ailleurs retournent parce que, sur place parce qu'elles trouvent une fiscalité trop faible. Ça permet à ces entreprises d'évoluer.
Voilà.
Je crois que voilà.
Oui. Merci beaucoup, Alphonse. Alors, Elman Cohen, notre auditeur de Kinshasa, analyse quand même de façon assez intéressante. Il dit que oui, il y avait déjà Obama qui avait boosté l'économie, mais il reconnaît que cette administration, avec des taxes, des impôts moins élevés, ont permis à certaines entreprises de rentrer. Comment est-ce que vous voyez cela?
Oh, je crois qu'il a raison. Bien sûr, pendant les 8 ans de président Obama, il y avait une croissance chaque année, une croissance substantielle. Donc ça a fait augmenter l'économie, augmenter les revenus. Et la dérégulation, je suis d'accord avec le professeur que la dérégulation ne fait pas grand-chose. Et j'ai peur que certaines régulations aient été mises en place pour protéger le consommateur, surtout dans les banques. Parce que avant Obama, les banques ont prêté de l'argent à n'importe qui, pour n'importe quoi, surtout pour les maisons où les prix étaient trop élevés, qui ne méritaient pas les prix comme ça. Donc, après quelques années, tout a tombé en ruine et il y avait une grande récession. Donc, je suis contre la dérégulation, ça ne fait rien pour l'économie. Mais il y a certaines entreprises qui sont contentes et je vois qu'il y a, petit à petit, il y a des entreprises qui rentrent de Chine et même de l'Europe.
D'accord. Alors, professeur Wang Chekon, puisque vous êtes dans le secteur de l'éducation, on voit quand même que avec cet emploi qui est très élevé, un taux de chômage très bas, on a des secteurs qui ont du mal à trouver des emplois qualifiés. Quel est votre point de vue sur cela?
Oui, c'est ça. En fait, le grand problème, qui est un problème d'ordre général, hein, donc c'est l'inadéquation entre l'emploi et l'éducation. Je crois qu'il y a la nécessité, même en Afrique, surtout en Afrique par exemple, d'adapter les curriculums, donc vers un peu plus d'études d'entrepreneuriat, sur les nouvelles technologies, pour profiter donc en fait des emplois qui se créent, parce que les emplois qui se créent aujourd'hui, c'est beaucoup plus dans ce secteur-là. Donc je pense que le problème reste entier. Donc comment faire pour que les emplois qui se créent, les aptitudes qui sont demandées par les employeurs, donc puissent se refléter dans les curriculums qu'on enseigne. Et je pense que ça, c'est un problème pas seulement américain. En fait, c'est beaucoup moins même le cas aux États-Unis que dans les autres pays.
Dans les autres pays. Tout à fait. Et cette question, je vais vous la poser à tous les deux. Parler un peu de l'immigration. Certains évoquent le fait que ces immigrés viennent prendre les emplois des Américains, mais l'économie américaine montre qu'elle peut bel et bien absorber ces chercheurs d'emploi qui viennent d'ailleurs, tant que cela se fait légalement. Oui ou non?
Oh, à mon avis, on a besoin des immigrés. Par exemple, mon fils est PDG d'une société de technologie. Et il a besoin des gens, surtout des gens qui viennent de l'Inde, une éducation pour l'informatique, qui savent faire des logiciels. Et maintenant, il a de plus en plus mal à faire venir ces gens-là. Et ils ne peuvent pas le trouver, ces gens aux États-Unis, parce que les écoles ne produisent pas assez des informaticiens. Donc, empêcher les immigrants est mauvais pour notre économie.
D'accord. Professeur Wang Chekon?
Oui, c'est ça. En fait, le problème de l'immigration, c'est pas du tout. Le débat sur l'immigration, c'est pas du tout un débat économique. Hein. C'est un débat, disons, identitaire, quoi. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont peur donc des changements démographiques aux États-Unis. Et donc, sinon, l'argument économique en faveur de l'immigration, c'est tout à fait évident. Les États-Unis, par exemple, comptent parmi les derniers, parmi les pays développés, dans l'enseignement en mathématiques. Donc, la plupart des mathématiciens qui enseignent aux États-Unis, par exemple, le niveau en maths dans plusieurs collèges, lycées aux États-Unis, c'est très bas par rapport à l'Europe et par rapport à l'Asie, par exemple, la Corée, la Chine, etc. Donc, c'est clair que, comme l'ambassadeur l'a dit, les États-Unis ont besoin de ces talents-là. C'est pour ça que les entreprises vont recruter en Turquie, vont recruter en Europe, etc., des gens qui ont ces talents-là. Et mieux que ça, la présence de ceux-là, ça aide à développer, en fait, l'amour des maths, des sciences dans les écoles, etc. Bon, le cas, c'est moi, par exemple, beaucoup d'autres collègues, donc, qui ont quitté leur pays, qui enseignent ici. Donc, notre contribution aux États-Unis, c'est totalement... voilà. Donc, le débat de l'immigration, c'est pas, en fait, c'est un débat identitaire. Et l'argument économique n'est même pas... C'est clair, c'est évident, quoi. Comme l'ambassadeur l'a dit, les États-Unis sont les plus grands bénéficiaires, donc, en fait, de l'immigration, quoi, notamment dans le domaine des sciences et de la technologie.
D'accord. Dans un instant, nous allons parler des implications politiques de tout cela, des chiffres de l'économie, mais nous avons deux auditeurs en ligne, Ordi Richel Okuo. Bonsoir. Ordi.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors, vous dites que cette faiblesse du taux de chômage aux États-Unis montre que le président Trump fait de grandes choses pour son pays. On vous écoute.
Bon, c'est ce que je voulais vous dire. M. Trump est en train de faire de grandes choses à son pays, car avec 3,9% de chômage, c'est vraiment du travail. Donc, je vais dire aux chefs africains, qu'ils soient des démocrates et non des dictateurs, pour baisser le taux du chômage. C'est simple, il faut que nos pays soient des pays qui ont la démocratie.
D'accord. D'accord. Et merci beaucoup, Ordi. On a très bien compris. Thierno Diallo depuis Conakry, bonsoir.
Bonsoir, Sir Atouhamandia et à l'ensemble de vos invités.
Oui, on vous écoute. Quel est votre point de vue sur le débat aujourd'hui?
Bon, moi, j'ai deux questions à poser à vos invités. J'aimerais savoir
si,
tout à fait, concernant l'économie américaine, parce que c'est un pays qui a vraiment beaucoup, beaucoup de migrants qui vivent dans leur sol. Est-ce que l'immigration apporte à l'économie américaine ou bien réduire les revenus des Américains? Deuxième question, M. Trump, étant pas un économiste qualifié, étant homme d'affaires, est-ce qu'il peut apporter quelque chose de positif pour l'économie américaine dans les 2 années à venir avant la fin de son premier quinquennat?
Merci beaucoup, Thierno. Je crois que nos deux invités avaient déjà abordé la question de l'immigration et de son impact sur l'économie. Et peut-être la deuxième question, M. Cohen.
Quelle était la deuxième
Je crois qu'il veut savoir qu'est-ce qui pourrait se passer pour les 2 années à venir pour M. Trump et pour l'économie américaine.
Je crois qu'en principe, l'économie doit continuer son expansion. J'ai vu dans les journaux, il y a quelques avertissements que peut-être il y a trop de dettes, les sociétés ont trop emprunté et ça peut devenir un problème pour l'économie, ça peut devenir encore une récession. Moi, en tant que je ne suis pas économiste, je ne peux pas juger. Mais en principe, je crois que les bons temps doivent continuer. Et ça, c'est pour le bénéfice de M. Trump, qui doit bien faire dans les élections, à mon avis. Mmh.
D'accord. Et M. Wanchekon, vous êtes optimiste aussi pour les 2 années à venir?
Bon, du point de vue économique, je crois, mais il faut dire qu'il y aura des endroits qui vont être frappés par la guerre commerciale. Et ces endroits-là, peut-être, vont être négativement affectés par ce qui se passe. Mais là, c'est vrai que ce qui se passe aux États-Unis actuellement, qui est que malgré l'expansion économique, le taux d'approbation, donc la popularité de Trump est à moins de 40%, c'est extraordinaire. C'est juste, ça montre que pour les gens, c'est pas l'économie, c'est important, mais les libertés, la morale et la personnalité du président, c'est aussi très, 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 très important. Et je pense que cela va se traduire dans les élections à venir, donc il aura très, 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 moi, je pense qu'il aura de grandes difficultés. Maintenant, c'est important.
justement, parlons déjà des élections de mi-mandat. La petite ombre sur le tableau qu'on a vu aujourd'hui, c'est quand même l'emploi manufacturier qui est un peu le cheval de bataille du président Trump dans ses fiefs, est tombé un peu dans le rouge avec une perte d'emploi de autour de 3 000.
C'est ça. Tout ça, c'est ça ne s'augure pas. En fait, le problème, et c'est la difficulté aujourd'hui, c'est de vraiment mesurer l'effet Trump sur l'économie. Parce que, comme l'ambassadeur l'a très bien dit, les fondamentaux qui ont permis d'être là où nous sommes aujourd'hui étaient placés dans les 5-6 dernières années. Mais lui, bon, comme tel qu'il est, il veut prendre crédit pour tout, il veut faire la propagande pour lui-même, etc. Et il exagère un peu sa propre présence. Et donc, je crois que les décisions qu'il prend sur le plan économique, qui ont même conduit à la démission de son conseiller économique, là, donc ces décisions, c'est des décisions qui pourront et donc nuire en fait en partie à surtout dans certaines régions, quoi.
Mais M. Cohen, je pense qu'il peut quand même, à juste raison, revendiquer certaines victoires, non?
Oh, je crois que vous savez que pendant l'élection, président Trump n'a pas eu la majorité.
Mais je veux dire, sur le plan économique, on ne peut pas dire que tout est. Il a juste bénéficié de ce qui s'est passé, ce qui a pu se passer avant lui. Il a quand
On peut dire que c'est Obama qui a fait la grande expansion économique et pas lui. Et président Trump a un grand problème de personnalité, comme le professeur a dit. Il n'a pas gagné dans le vote populaire contre Mme Clinton. Et depuis, à cause de tout ce qu'il dit sur Twitter, à la télévision, il fait des bêtises dans son langage, il accuse la presse d'être l'ennemi du peuple. À mon avis, il va encore perdre. Et donc, je crois que pour les élections à mi-terme, en novembre, les démocrates vont prendre le contrôle de la Chambre à cause de ça.
Bon, on verra. On va prendre peut-être notre dernier auditeur rapidement, Tidiane Botegeba, depuis Yaoundé, c'est ça?
Oui, bonsoir à vous, je suis à Douala, la
Douala plutôt.
Du Cameroun.
On vous écoute.
Ah, en tout cas, moi je pense que, en tout cas, ce qui explique, c'est là, vous savez, la politique de Donald Trump se base sur, en tout cas, la politique surtout de l'Amérique d'abord. Donc, moi, je pense que, en tout cas, je partage mon avis avec Donald Trump, parce que la différence, par exemple, entre l'Amérique et l'Afrique, parce que si, par exemple, en Afrique, nous avons des dirigeants, en tout cas, qui ne se situent pas vraiment à la jeunesse ou bien aux emplois de la jeunesse africaine. Mais par contre, la politique américaine, surtout la politique de Donald Trump, en tout cas, se base sur vraiment l'intérêt des Américains et pour les Américains. Donc, quelque chose, en tout cas, que je salue malgré les critiques à l'endroit de la personnalité de Donald Trump.
Voilà, merci beaucoup Tidiane Botegeba depuis Douala, la capitale économique du Cameroun. Et peut-être on va terminer sur ce point. Justement, on a deux auditeurs, Ordi du Congo-Brazzaville et Tidiane, que nous venons d'avoir, qui ont essayé de faire une petite comparaison entre Donald Trump et les dirigeants africains, même si peut-être sur le plan économique on ne peut pas comparer les deux. Est-ce qu'il y a une manière pour l'Afrique de s'inspirer de l'exemple américain, de quelque façon que ce soit? Parce que c'est le continent le plus jeune et où il y a le plus de chômage aussi.
J'espère pas.
Non, oui, bien sûr.
Il cherche à être autoritaire. Par exemple, il n'aime pas un article dans la presse. Il veut abolir la presse. Il veut arrêter les gens. Donc, il est plutôt autoritaire comme pas mal de dirigeants africains.
C'est la comparaison se limite là. Bon, pour vous, quoi. Donc, on va écouter peut-être Léonard Wanchekon sur cette même question. Quelle est votre
analyse? Je suis d'accord avec l'ambassadeur. Je pense que, en fait, dans le court terme, vous pouvez avoir de bons résultats avec un dictateur, mais dans le long terme, c'est la démocratie qui marche, quoi. c'est-à-dire des gens libres.
Je crois que les auditeurs veulent surtout mettre l'accent sur le fait que lui, il pense d'abord à son pays. Est-ce que c'est une pratique qui peut marcher en Afrique?
Non, c'est pas vrai. C'est juste un langage, c'est juste la propagande. En fait, comme l'ambassadeur l'a très bien dit, l'expansion américaine dépend en partie, par exemple, de ce qui se passe en Inde, de ce qui se passe en Chine, parce qu'ils ont besoin donc du monde pour pouvoir vendre leurs produits.
Voilà. Et donc, débat très intéressant, on est obligé d'arrêter malheureusement. C'est la fin de cette émission. L'Amérique et vous, merci à Herman Cohen, merci également à Léonard Wontjekon. Excellente écoute sur VOA Afrique. Au revoir.